Jean 12 au verset 1er. Je vais juste relire les trois premiers versets. Jésus donc, 6 jours avant la Pâque, vint à Béthanie où était Lazare, le mort, que Jésus avait ressuscité d'entre les morts. On lui fit donc là un souper. Et Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui étaient à table avec lui. Marie donc, ayant pris une livre de parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Nous savons bien, et nous y sommes d'ailleurs très attachés, l'orientation générale que donne cet évangile à la vie de Jésus, et le regard particulier par rapport aux autres évangiles qui est donné. Cette orientation, je crois qu'elle est annoncée dès le premier chapitre, lorsqu'il est parlé de cette gloire qui est donnée à voir. Nous vîmes sa gloire, personne ne vit jamais Dieu. La présence du verbe « voir » est extrêmement fréquente dans l'évangile de Jean. Et à la différence des autres évangiles, on n'a pas, si vous voulez, cette progression, cette montée progressive de la révélation ou dans la révélation de Jésus. Dans les autres évangiles, on voit les disciples, certes, qui sont témoins de tout ce que Jésus accomplit, mais qui ont du mal quand même à rentrer dans le sens de cette vie, de cette œuvre que Jésus déploie devant eux. De ce point de vue-là, l'évangile de Jean est très différent. C'est comme si, dès le début, nous sommes invités à voir que tout, dans ce que fait Jésus, dans tout ce qu'il manifeste de lui, eh bien, il y a cette gloire de Dieu. Je vais juste en donner quelques exemples. Le premier miracle qui est accompli, c'est au chapitre 2, il est dit, verset 11, « Et Jésus manifesta sa gloire. » Jésus manifesta sa gloire. Il y a ce miracle aussi, qui est un peu emblématique de cet évangile, de cet aveugle, donc qui se met à voir. Et à la fin de l'entretien, donc à la fin de cette scène, Jésus le retrouve et puis lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Et Jésus lui dit « Et tu l'as vu ?» Et il répond « Je crois, Seigneur. » Il n'y a pas dans l'évangile de Jean de scène de la transfiguration. Scène de la transfiguration, je rappelle, Jésus prend avec lui quelques disciples et devant eux, eh bien, il prend une forme, une apparence tout à fait différente, qui est justement une vision de gloire qui est réservée aux disciples et qui est annonciatrice aussi déjà de cette gloire que Jésus va avoir après la résurrection. Ici, c'est dès le début que cette gloire est là, elle est présente. Jésus ne se transforme pas sous le regard des disciples, mais il est déjà dans cette gloire dès le début. Alors c'est dans cette continuité que l'on peut placer justement le passage de Jean 12 qu'on a lu, ou le passage aussi que l'on pourrait ajouter à celui-là, c'est dans le chapitre 20. Je vais juste relire le début. Enfin, le début, c'est à partir du verset 19. Donc, ce sont les disciples qui se tiennent ensemble. Là, les portes du lieu où ils sont fermées. Et à la fin du verset 19, Jésus vint et se tint au milieu d'eux, et il leur dit « Paix vous soit ». Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent donc quand ils virent le Seigneur. C'est quoi cette vue, finalement? ou Marie dans notre scène de l'évangile 12, du chapitre 12 de l'évangile, qu'est-ce qu'elle a vu? Eh bien, elle a vu la gloire du Seigneur, ce qui veut dire, un peu comme les disciples quand ils virent le Seigneur. C'est pas Jésus simplement l'homme ressuscité, celui qu'ils avaient connu, mais ils voient celui en qui ils reconnaissent le Seigneur, ce qui est tout à fait différent, ce qui est le cas aussi, bien sûr, de l'aveugle qui est guéri par Jésus. Ils entrent dans autre chose. Et peut-être qu'ils sont en train de réaliser justement ce qui est annoncé par le début de l'évangile et qui est le cœur même de cet évangile, cette gloire de Jésus qui se donne à voir dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, dans sa présence au milieu des siens. Alors c'est quoi cette vision de la gloire? Notons d'abord que l'évangile de Jean d'ailleurs en parle. Hein. Il y a la gloire telle que les hommes la définissent. Donc c'est une sorte de valorisation extrême de la personne, hein, à travers sa réputation, sa renommée, ses actes. Voilà, quelque chose qui fait qu'un homme est plus grand que les autres. Alors bien sûr, la gloire de Dieu a quelque chose à voir avec ce sens-là. Mais il y a autre chose aussi. Hein, il y a un sens particulier de la gloire de Dieu dans toute la parole. Hein, et c'est donné par le sens même du mot originel. Il y a un très beau passage, je vais pas m'y attarder, mais dans le livre d'Ésaïe au début, où on voit que les hommes sont attachés, les hommes du peuple de Dieu sont attachés à des choses insignifiantes, qui n'ont pas de poids. Et le sens de la gloire, il est là, hein, le sens premier. La gloire, dans le terme hébreu, ça veut dire le poids. Alors comment il faut le comprendre? Ben c'est justement ce qui a du sens. Hein, ce qui a du sens. Et Marie, quand elle décide de verser ce parfum sur la personne de Jésus, c'est bien sûr parce qu'elle voit déjà le sens même de ce que Jésus est venu faire. Hein, puisque c'est aussi, c'est dit par la suite, c'est une préfiguration de la résurrection. Elle ne voit pas simplement Jésus comme ont pu le voir les autres hommes à ce moment-là. Non. Elle voit déjà dans Jésus, eh bien, celui qui est au centre de toute la pensée de Dieu. Celui qui est là et qui donne enfin à cette pensée de Dieu, eh bien, tout son poids, toute son épaisseur, toute sa signification. Hein, c'est dans ce sens-là que l'on peut aller. Alors, on a lu ce passage, bien sûr, ce matin, parce que c'est un passage qui nous parle d'adoration. Et on peut voir dans cette scène des éléments, justement, qui sont déjà aussi l'annonce, hein, des moments de culte que l'on a pu partager ce matin. Alors, j'aimerais juste... Il y a bien sûr ces notions, je ne pourrais pas la développer... Maintenant, mais la notion de parfum, elle est liée bien sûr à la notion de sacrifice. Ça, ce sont des choses qui ont des ramifications profondes dans l'Ancien Testament. Mais j'aimerais juste relever deux, trois choses. On est déjà, si vous voulez, à table, ici, un souper, dont il est dit, on lui fit donc là un souper. Hein, la formulation est intéressante, c'est une forme de passif. C'est « on », une espèce de communauté ici, un peu anonyme, mais qui fait un souper pour Jésus, hein, à l'attention de Jésus. Souper, il y a bien sûr ce moment de partage, mais on voit déjà que dans ces notions de partage, de repas, eh bien, Jésus a une position de centre. C'est comme si, bien sûr, tous les regards de ceux qui veulent voir Jésus, eh bien, sont tournés vers Jésus. Et que celui qu'on voit au centre, c'est bien justement celui que Dieu a placé au centre. Hein, il y a déjà cette notion-là. Ensuite, il y a aussi, alors c'est l'enchaînement avec le chapitre 11, hein, où à la fin du chapitre 11, il y a des tensions extrêmement fortes entre Jésus et le peuple juif. Et puis là, on est à l'écart. Hein, on est à l'écart. Jésus donc, 6 jours avant la Pâque. Quelle est belle aussi cette expression. Et on aurait tort d'y voir simplement une indication, je veux dire, d'ordre chronologique. C'est bien sûr avant la Pâque, comme si bien la Pâque de Christ, ici, était déjà en quelque sorte évoquée, avec le sens, justement, le poids qu'elle peut avoir. Une chose dans laquelle on ne peut entrer, justement, que si on a un autre regard que celui des hommes, qu'ont eu les hommes au chapitre 11. Donc, voilà, presque une conséquence. Il y a la haine du monde, l'inimitié, et on sait ce qu'elle va produire, et puis ensuite, voilà, en conséquence, donc ce moment de paix à l'écart, partagé autour de celui qui en est le centre. Ensuite, l'acte même de cette femme. On dit beaucoup de choses sur les femmes dans nos milieux. Je vois pas personnellement un homme forcément capable de produire un acte de ce type ici. Cet acte dont il est dit aussi qu'il va figurer dans les annales, comme quelque chose dont il faut se souvenir. Pourquoi est-il si exceptionnel? D'abord, c'est bien sûr le cœur même de l'adoration, de la louange. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a quelque chose de totalement gratuit. Absolument gratuit, de totalement désintéressé. C'est pas comme les hommes, quelquefois, qui peuvent donner, se montrer généreux, parce que cela pourrait faire partie d'une forme de stratégie, parce qu'ils en attendent un retour, parce que c'est quelque chose dans la relation humaine qui peut, voilà, faire évoluer les choses dans un sens positif. On le voit un peu par contraste avec Judas, qui fait semblant ici d'être intéressé par le sort des pauvres. Mais en fait, il y a un arrière-pensée. Chez Marie, il n'y a pas d'arrière-pensée. Justement, c'est ce qui fait la force, la valeur, la beauté de ce geste. C'est-à-dire qu'elle est entièrement tournée vers Jésus. Et tout ce qu'elle fait n'a d'autre objet que Jésus-Christ. Et elle s'efface totalement dans ce geste. Alors, on l'a souligné, ce parfum a du prix à plusieurs titres. D'abord parce qu'elle donne beaucoup d'elle-même. On a fait des calculs sur la valeur de ce parfum. Je mettrai ça volontiers avec un autre, en relation avec un autre passage. Vous savez, cette parabole où de la dette, quelqu'un on a contracté une dette, on est là aussi, on avait fait le calcul, ça ressemblait au PIB de la Palestine à ce moment-là. Donc c'est une somme astronomique. On se demande d'ailleurs comment quelqu'un a pu contracter une telle dette, mais c'est évidemment quelque chose qui est impossible de payer pour un seul homme. C'est impossible. C'est impossible, mais pas si on se place bien sûr sur le plan spirituel. Parce qu'il y a de ce point de vue-là, du point de vue de la dette que le pécheur a contractée, rien que Dieu ne puisse pardonner. Et ici, c'est quelque chose qui a ce sens-là aussi. C'est qu'il n'y a rien de suffisamment précieux à nos yeux qu'on ne puisse donner, offrir à Jésus. C'est comme s'il y a une comparaison. C'est que Jésus a du prix ou à ce prix-là qui mérite qu'on lui donne plus que ce qu'on pourrait avoir, si je force un peu l'image, mais ça va dans ce sens-là. C'est qu'on est dans une mesure, ici, une sorte de proportion, de logique de proportion qui n'est plus celle de la logique humaine. Voilà, mais qui consiste à placer Jésus au-dessus de tout. Et puis, peut-être encore quelque chose de... Dans l'évangile de, au chapitre 20, par exemple, je reviens là-dessus rapidement. Donc, ils virent le Seigneur. Ce qui me paraît intéressant, je vais me mettre en relation avec ce chapitre 12. La scène qui est décrite ici, répétée deux fois. Les disciples sont là et Jésus les rejoint. Il est bien dit au milieu d'eux, comme dans Jean 12. Voilà, cette place qui n'est pas simplement une place de dans l'espace. C'est bien beaucoup plus fondamentalement. Ce qui donne du poids, c'est Jésus qui est au centre de cette assemblée naissante et du conseil de Dieu. La scène est répétée deux fois. C'est important, ça. C'est-à-dire C'est très important parce que il y a forcément cette question du lien aussi. Jésus qui est au milieu des siens. Le lien qui est manifesté, comme il l'est dans le chapitre 12. Ce repas partagé avec Jésus au milieu. Ici, Jésus qui se tient au milieu de Dieu. Il y a un lien qui n'existe entre ceux qui sont là que parce que Jésus occupe cette position de centre. Et on sait l'attachement que l'on a à cette pensée. Le mot religieux vient du mot lien. Après, on peut lui donner un sens un peu négatif parce que il y a l'idée, bien sûr, de tradition. Il y a l'idée d'habitude, quelque chose qui nous guette tous. Ce que je voulais dire, c'est que la scène est répétée deux fois. La deuxième fois, eh bien, les disciples ont le même désir d'être là. Qu'est-ce qui fait que cette réunion avec Jésus comme centre a du sens, a du poids? C'est la même chose que dans Jean 12. C'est le fait de voir la gloire. C'est le fait de porter une appréciation particulière sur la personne de Jésus. De voir qu'il est le tout dans le plan de Dieu. Et que c'est sa présence là qui est le sujet d'une réjouissance particulière. À la réjouissance, ne mettons pas ça sur le compte d'une humeur, c'est beaucoup plus. C'est à travers cette joie on réalise la position de salut dans laquelle nous sommes introduits. Il y a quelque chose qui est plus fort que l'habitude, que la répétition. Ils ont la deuxième fois toujours ce même désir d'être autour du Seigneur Jésus-Christ et de voir que dans sa présence, il y a quelque chose de plus profond, qui a du poids, qui se réalise. Voilà, nous vîmes sa gloire.